le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Dans quelques heures maintenant, les électeurs américains se rendront aux urnes pour élire le 47e président des États-Unis. Le vote a déjà commencé en ce qui concerne le vote par correspondance. Alors quels sont les véritables enjeux de ce scrutin? Que peut-on dire de la société américaine? Quel peut être l'impact d'un changement de président? C'est ce dont nous allons parler dans ce magazine avec nos deux invités. Gaël Lagadec, professeur des universités, spécialiste des analyses économiques des compétitions électorales, notamment aux États-Unis, et Armand Hage, professeur émérite de civilisation américaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des enjeux de ce scrutin qui passionne, comme c'est le cas tous les quatre ans, la planète entière, parce que le président des États-Unis reste une personnalité incontournable du monde et de la scène internationale. On parlera aussi des enjeux internes, évidemment, aux États-Unis. Avant d'en venir à ces enjeux, peut-être un mot sur cette fin de campagne. On a assisté, comme c'est le cas tous les quatre ans, à une intensification de la campagne, multiplication des meetings. On voit des candidats qui se rendent dans les états clés pour essayer de convaincre les derniers indécis qui pourraient faire pencher la balance dans un sens ou un autre. Véritablement, cette campagne a pris une forme particulière pour ces derniers jours, Gaël Lagadec.
Ça devient paroxystique parce que les sondages sont tellement serrés qu'ils sont en réalité, à mon avis, non interprétables. Et puis, il faut rappeler que l'objectif n'est pas de gagner ce qu'on appelle le vote populaire, donc d'avoir le plus grand nombre d'électeurs, mais d'avoir le plus grand nombre de grands électeurs. Et comme vous le disiez, c'est la problématique des États clés, où on a la règle dans 48 des États où le vainqueur emporte la totalité des grands électeurs. Il en faut 270, par exemple. En théorie, on gagne avec une voix d'avance la Californie, on prend les 54 grands électeurs et l'autre candidat, zéro. Donc évidemment, sur ces États pivots, États clés, la campagne est paroxystique parce que il suffit que quelques milliers, probablement quelques milliers de votes changent de camp ou se mobilisent pour que la totalité des grands électeurs de ces États bascule du côté républicain ou du côté démocrate.
Alors Armand, c'est le cas tous les quatre ans. C'est vraiment les États clés qui sont les derniers ciblés finalement par les candidats.
Oui, surtout justement, c'est ce qu'on voit ces jours-ci. Et les deux candidats, bien sûr, lancent tout leur poids dans la balance. Par exemple, Harris a été du côté des Grands Lacs et dans le Michigan. Elle s'est réveillée en quelque sorte parce que ce sont des personnes dans cet État qui sont en bonne proportion des émigrés à l'origine ou du Proche-Orient. Mm. Depuis un an, ils la menacent de ne pas voter pour elle ou de s'abstenir parce qu'ils estiment qu'elle ne les soutient pas, qu'elle soutient Israël. Alors elle a parlé en gardant l'ambiguïté tout de même, mais c'est le problème du vice-président qui veut devenir président.
Oui, qui a presque un handicap par rapport à un candidat qui n'est pas dans le système.
Exactement, parce que de toute façon, si on voit le nombre de personnes qui sont devenues présidents des États-Unis, ils sont à égalité, une douzaine entre sénateurs, gouverneurs et vice-présidents. Donc, on ne sait pas s'il y a une préférence importante, mais celui qui est vice-président n'est pas dans une situation très favorable, pas confortable.
Oui, alors c'est vrai, pour autant, ce sont deux candidats qu'on peut dire qui sont déjà du système, puisque Kamala Harris est vice-présidente en titre et que Donald Trump, lui, a été président. Donc, ils sont tous les deux marqués déjà par le système.
Oui, c'est sûr. Disons, ils ne sont pas marqués de la même façon, parce qu'elle fait partie du système à 100%. La doctrine de Trump, c'est de dire « je vais faire écrouler le système ». Mais nous allons voir. Il y a eu évidemment beaucoup de sondages. Ces temps-ci, c'est très difficile de voir. Ils sont à peine à 1% près. On ne sait pas. Il y a beaucoup de devins dans ce domaine. En Angleterre, il y a les bookmakers. Ici, c'est les gens qui parient surtout, y compris sur le résultat. Il y en a qui disent, moi je suis scientifique, donc j'étudie ceci de façon scientifique. Et on est obligé de tenir compte quand même des résultats d'un certain Lichtman qui a bien prévu 9 fois sur 10 les dernières fois.
Alors, qu'a-t-il prévu cette fois-ci, alors ?
Cette fois-ci, il prévoit Harris qui gagne.
Harris qui gagne. Mais évidemment, il faudra attendre, surtout qu'on va parler de ces résultats et de leur éventuelle contestation, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se préparent. Pour revenir sur cette fin de campagne, Gaël Lagadec, on a été frappé, parce qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, en métropole, du ton employé par les candidats qui se sont vraiment affrontés verbalement de façon très dure. Il y a aussi les stars, entre guillemets, du monde du showbiz ou du sport qui viennent soutenir l'un ou l'autre des candidats. Est-ce que ça a du poids, ça ? Est-ce que ça peut faire aussi pencher la balance ? Est-ce que ça compte pour les électeurs indécis ?
Les stars, on considère qu'en réalité, elles ont peu de poids. Et puis en général, les stars du showbiz soutiennent toujours les démocrates. Donc d'une élection à l'autre, ça ne change pas. Ce qu'il y a de notable également dans cette fin de campagne, au-delà des attaques très, très virulentes et des campagnes de publicité à la télé notamment très négatives, c'est que Trump se met en scène de façon très, très marquante. Hein, quand Biden a traité ses partisans d'ordures, le lendemain, il allait à un meeting dans un camion poubelle avec déguisé lui-même en personnel en éboueur. Kamala Harris a dit « J'ai fait un job d'été dans un McDo ». Trump lui a demandé de prouver. Elle dit « Je peux pas, mais ça fait 40 ans ». Donc, quelques jours après, il était dans un McDo pour servir des clients. Ça a duré 15 minutes. Et il a dit « Ben voilà, moi, au moins, j'ai travaillé 15 minutes de plus que Kamala Harris dans un McDo ». On est très loin de programmes économiques ou politiques. Mais ce sont des images quand même qui sont marquantes, sans compter l'attentat où il a pris une balle dans l'oreille, hein, qui a quand même été un tournant dans la campagne.
Ça veut dire qu'on est sur une campagne à armoage, une campagne d'image, de notoriété, ou est-ce que quand même, de temps en temps, même si on en a un peu parlé, les candidats vont sur le fond et s'occupent et se préoccupent des sujets qui préoccupent les Américains ?
Ils sont obligés de parler des questions de fond, mais les différences ne sont pas toujours très claires. Il y a certains points où ils sont d'accord, comme la politique vis-à-vis d'Israël, l'inflation, bien sûr. Mais que vont-ils faire par la suite, s'ils sont élus ? Il y a des problèmes très, très spécifiques qui tourmentent la population, le problème de l'inflation, l'économie, et surtout les inégalités. Aux dernières statistiques, on constate que 1% de la population américaine détient 30% des richesses. 20% de la population américaine détient 70% des richesses. Et les plus pauvres, en quelque sorte, les 50% les plus pauvres n'ont que 2,5%. Donc les inégalités ne sont pas dignes d'un pays qui se veut démocratique. D'ailleurs, il y a énormément de choses à dire sur la démocratie en Amérique, comme Tocqueville le disait. Lui, il y croyait. On ne peut qu'être sceptique, même dans le système électoral.
Alors, il y a ces inégalités. On parle aussi beaucoup aujourd'hui d'une société américaine très clivée, très divisée. Est-ce que c'est uniquement sur les questions de pauvreté ou de pouvoir d'achat, ou est-ce que c'est aussi sur des questions plus morales ou des questions de fond qui peuvent préoccuper les Américains ?
Ah, c'est sûr qu'il y a des questions morales ou sociétales qui divisent le peuple américain, notamment les évangéliques.
Qui ont un poids très important. Hein.
Qui sont très, très nombreux et qui sont favorables à Trump en général. Mais certains d'entre eux renoncent à le suivre parce qu'ils estiment qu'il a une vie plus ou moins déréglée, immorale, et qu'il n'est pas digne d'un chrétien.
Oui, alors il y a un certain nombre d'affaires qui pèse aussi sur Donald Trump. Cette société, elle est plus clivée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années, Gaël Lagadec.
C'est ce que disent les analystes, la plupart des analystes. Et les clivages ne sont pas vraiment sur des critères économiques directement, mais c'est sur des critères, comme disait Armand, sociétaux, la question de l'IVG, les droits des minorités, les personnes LGBT, etc., l'immigration. Et on a des thèmes de campagne, en fait, qui sont extrêmement polarisants. Et d'une certaine façon, chaque camp considère que l'autre représente le mal et lui le bien. Donc ça explique cette fin de campagne extrêmement complexe et puis les débordements. C'est quand même la première fois qu'on a trois tentatives d'assassinat contre contre un candidat à une élection. Et on va en parler, mais il y a aussi la question de l'après, parce que peut-être que tout va commencer le 5 plutôt que se terminer là.
On a beaucoup parlé de ces attentats au moment où ils ont été commis. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? Est-ce que les enquêtes ont progressé? Ou est-ce que finalement, tout le monde attend que les élections soient passées pour faire la lumière sur ces attentats?
Ben, je dirais que les trois, ils ont un peu le même profil. Des hommes blancs qui ont une affiliation politique pas si claire, qui ont l'air un peu marginaux. On a, pour moi, on n'a pas eu de réponse très claire, hein, ni sur leur motivation, ni sur le pourquoi du premier tireur a été en capacité de tirer avec les membres du secret de service qui étaient normalement là pour protéger le président, et puis dans son meeting, des spectateurs qui annonçaient au secret de service qu'il y a un tireur sur le toit et rien
n'a été fait. Ouais. Il y a encore des zones d'ombre à Armorage.
C'est ce qui rend la question très trouble. Et certains ont déjà dit que c'est peut-être une tentative d'assassinat organisée. Eux ne connaissent pas Mitterrand, mais oui. nous rappelons l'histoire de la rue de l'Observatoire. Et ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, c'est toujours très difficile de savoir qui est responsable de ce genre de choses. Notamment, bien sûr, l'assassinat de Kennedy en 63. Personne n'en saura jamais rien. En dehors de ceux qui savent.
Oui, c'est ça. On peut se demander quand même dans cette campagne, en tout cas celle qui concerne ce duel-là, à qui profite le crime, entre guillemets, même
Exactement.
Si le crime n'a pas été jusqu'au bout. Hein. C'est bien ça la difficulté.
Oui.
Alors, même si on ne peut pas interpréter les sondages, hein, vous l'avez dit l'un et l'autre, parce que la situation aux USA est très complexe, tout le monde dit que ça risque d'être très très serré, le scrutin entre Kamala Harris et Donald Trump. Et Donald Trump a déjà dit... En gros, que s'il perdait, parce qu'il se voit déjà réélu président, il contesterait le scrutin. Alors là, on rentre dans quelque chose qui risque... On se souvient de l'épisode du Capitole, hein, il y a maintenant 4 ans, Gaël Lagadec. Est-ce qu'on va rentrer, finalement, dans une bataille juridique en cas de scrutin très serré? Et combien de temps ça peut prendre?
En cas le scrutin a toutes les chances, quand même, d'être serré. C'est pas obligatoire, hein, je l'ai déjà dit. C'est pas parce que les sondages sont serrés que... L'élection l'est, mais la répartition entre les États fait que souvent il suffit qu'un État bascule pour changer l'élection. D'abord, je pourrais dire que pour Trump, il y a ce qu'on appelle le mur bleu. Ça a été évoqué, c'est les États des Grands Lacs, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Notamment, c'est des États traditionnels.
Hein, la côte est.
Oui, c'est ça, sous les Grands Lacs. Traditionnellement démocrates. Et il suffirait que sur les trois que j'ai cités, à mon avis, Trump en prenne un pour qu'il soit très bien placé. Et sur ces trois États, les écarts sont de un point de pourcentage, hein, selon les moyennes de sondage. Donc c'est vraiment quelque chose qui augure d'une élection très incertaine. Et après, les contestations, elles, en revanche, elles sont certaines. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si Trump perd, il a quand même des chances que ce soit de peu ou de très peu. Il accuse déjà les démocrates de tricher, hein, ce qui n'est pas un signe de très grande sérénité, mais ça prépare le terrain. Il a recruté
notamment
des milliers...
Notamment pour le vote électronique. Hein.
Oui. Il y a d'ailleurs eu des... Puisqu'on peut voter de façon anticipée, peut-être pour la moitié de l'électorat, il y a d'ailleurs eu des urnes qui ont été incendiées ou des dropbox, c'est là où on dépose les bulletins de vote. Mais les contestations, ça ne va pas être comme le Capitole. Le Capitole, c'était une forme d'insurrection poussée par Trump. Là, c'est organisé par avance aux différents niveaux de certification de l'élection. Il y a différents niveaux. Il y a le bureau de vote, il y a le comté, il y a l'État fédéral. Et à chaque étape, il essaiera de contester les résultats. Parce qu'il suffit qu'il arrive à le contester dans un État pour que ça puisse renverser... la majorité dans ce qu'on appelle le collège électoral, donc les 538 grands électeurs.
Et il s'est organisé pour ça, selon vous ?
Oui, certainement, oui. Il a recruté, d'abord, il a des financements de milliards de dollars rien que pour ses procédures. Il a recruté des milliers d'observateurs, des milliers d'avocats, des observateurs qui parfois peuvent demander à vérifier par exemple, si tel électeur a bien 18 ans, s'il est... inscrit dans la circonscription, etc. Donc on peut faire traîner le processus. Après, il me semble que c'est le 17 décembre que le vote des grands électeurs doit avoir lieu, et puis la certification au Capitole début janvier.
Oui, donc ça laisse un petit laps de temps quand même pour organiser tout ça. Mais,
Oui, mais le laps de temps, il peut être borné aussi si la Cour suprême intervient, comme on l'a déjà vu dans l'affaire de George Bush fils avec Al Gore.
Qui avait fini Al Gore par reconnaître qu'il avait perdu. Il avait aussi pris les devants un moment. Mais bon, ça avait pris du temps. Hein.
C'est compliqué parce que les journalistes qui avaient recompté n'arrivaient pas à ce résultat-là. Et on peut penser quand même que si la Cour suprême, à l'époque républicaine, a interrompu le décompte, c'est qu'elle y voyait un intérêt politique.
Alors ça en dit long, vous le disiez, Armand Haye, sur la démocratie américaine. C'est vrai qu'elle se passe différemment de ce qu'on connaît en Europe. Hein. Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre.
Et d'autant que c'est un système fédéral.
En plus.
Que ce soit Trump ou Harris, ils peuvent mettre en question les résultats dans 50 États. Tout est bon pour protester. Ceci dit, dans la plupart des cas, je pense que les choses se passeront bien, s'il y a un grand écart. Mais la situation est tendue à un point tel que pour 24 États, le gouvernement fédéral a décidé d'envoyer des observateurs actifs. C'est-à-dire qu'ils vont bien examiner ce qui peut se passer dans les bureaux des électeurs qui sont non seulement peut-être pas américains, qui n'ont pas 18 ans. Le problème entre les démocrates et les républicains, c'était que les républicains demandaient qu'on présente une pièce d'identité avant de voter. Et les démocrates, jusqu'à présent, ne sont pas très enthousiastes. Pourquoi ? Parce que Trump dit que les démocrates vont voter les immigrés. Les immigrés viennent évidemment de façon clandestine, illégale, et il accuse déjà à l'avance les démocrates de les amener pour qu'ils votent. Donc l'ambiance déjà est un peu viciée.
Gaël Lagadec ?
Oui, pour compléter, le dernier slogan que Trump a sorti, c'est « trop d'écart pour tricher ». C'est pour mobiliser son électorat, dire « il faut qu'on ait suffisamment d'avance pour que les démocrates ne puissent pas tricher ». Donc, il instille partout le doute sur la fiabilité du système.
Alors, un mot encore, peut-être pour bien comprendre les choses, parce que vous avez évoqué le rôle de la Cour suprême, hein, ces fameux juges qui sont mis en place et qui sont finalement les garants de la Constitution américaine. S'il y a des litiges, s'il y a des contestations, vous l'avez dit, il y a une année où ils sont intervenus pour interrompre le vote. Ça pourrait aller jusque-là cette année encore ? Vous pensez que la Cour suprême pourrait jouer un rôle particulier ?
Elle n'est pas obligée de se saisir de tous les problèmes. C'est elle qui décide si elle se saisit.
Mais elle est complètement autonome, en fait. Hein.
Elle est indépendante, mais elle est quand même politisée parce qu'elle est nommée par des présidents. Les juges sont nommés à vie. Alors, on a parfois des juges qui vont prendre le contre-pied de l'idéologie qu'on peut leur prêter. Mais dans les dernières affaires traité concernant Trump, enfin la dernière sur qui lui donne une forme d'immunité présidentielle, l'argumentaire a l'air quand même plus politique que juridique. Et sur du litige électoral, évidemment, comme ailleurs, mais a fortiori ici avec les délais, c'est l'instance suprême de jugement.
Dans la grande majorité des cas, la Cour suprême n'intervient pas d'office d'elle-même. Ces cas sont très, très rares dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est le juge suprême en dernier ressort. Donc, il faudrait que les litiges prennent une dimension très, très importante avec des appels. Il ne faut pas oublier les appels pour que la Cour suprême décide de se saisir de ces questions-là. La Cour suprême, en réalité, n'a pas été bien définie dans la Constitution. Et elle s'est constituée elle-même tous ses pouvoirs. On l'a appelée Cour suprême, donc on ne met pas en cause les décisions de la Cour suprême. Mais elle les a gagnées au fur et à mesure. Elle a gagné, par exemple, le premier cas important qu'elle a pu examiner. Est-ce qu'on peut mettre en cause la constitutionnalité d'une loi ? Si tel est le cas, s'il y a un litige, elle a dit « la Cour suprême peut intervenir ». Mais ce n'est nulle part dans la Constitution. Et comme disait Gaël, plusieurs cas se sont présentés où celui qui a été élu, désigné plus ou moins juge suprême, peut avoir des votes plus ou moins prépondérants, il peut avoir de l'influence sur les autres. Ce n'est jamais très bien défini.
Vous voulez ajouter quelque chose, Gaël Lagadec?
Oui, parce que sur les 9 juges nommés à vie, 6 l'ont été par des présidents républicains et 3 par Donald Trump.
Ouais. Qui est républicain quand même.
Qui est républicain, mais donc il y a des...
Dont 3 sont... Dont,
sur les 6, il y en a 3, voilà, 3 républicains.
D'accord, ouais. D'accord, ouais. 3 nommés par Donald Trump. Sur les 6 républicains, il y en a 3 nommés par Donald Trump.
D'ailleurs, il fait dans ses meetings la promotion de la Cour suprême. Il dit... Cour suprême est brave, très brave.
Ouais, il se la met déjà un peu dans la poche, en quelque sorte.
Oui, il l'a sans doute déjà.
Oui, ils le sont déjà, parce que c'est lui qui les a nommés.
Alors, parlons d'un autre sujet qui est important pour... alors, c'est peut-être pas un enjeu pour les Américains, mais pour le reste du monde, oui, c'est évidemment la politique internationale des USA. On se souvient que quand Donald Trump était président, il avait rencontré les dirigeants nord-coréens, il avait fait un certain nombre de démonstrations. Il s'est vanté aussi qu'il n'y avait pas eu de guerre déclenchée pendant qu'il était président. Est-ce que ces questions internationales passionnent les Américains? Est-ce que c'est vraiment un des enjeux quand même de cette élection, Armand Hage?
De façon générale, les Américains ne connaissent rien sur la politique étrangère.
C'est vrai, on le dit souvent, mais c'est vrai.
Et beaucoup ne connaissent pas grand-chose sur leur propre pays. Quand ils font des sondages dans la rue, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se trouve dans la Constitution américaine. Certains ne connaissent pas le nom de pays, quand même, pays européens. Dans certains jeux, on voit des personnes adultes qui, en principe, sont éduquées, instruites. Une fille, à un certain moment, on parlait de la Hongrie. Alors, l'animateur a dit « Hungry ».
Elle a dit qu'elle,
c'était la réponse.
Elle a dit qu'elle avait faim.
Elle a dit « Is there a country ?» Donc, c'est... Certains Européens peuvent estimer que c'est une situation affligeante. Les gens ne connaissent rien. Mais ils sont orientés, ils sont conditionnés, comme sur certains pays, comme la Corée du Nord ou la Chine. On leur dit « c'est l'ennemi ». Ils disent que c'est l'ennemi. On n'en parle plus. C'est décidé une fois pour toutes.
Est-ce que, sur la scène internationale, la nomination de l'un ou de l'autre candidat peut avoir une influence? On pense notamment au conflit en Ukraine, aujourd'hui, sur lequel Joe Biden s'est beaucoup impliqué, donc les démocrates aussi. Est-ce que Kamala Harris poursuivrait cette politique de soutien à l'Ukraine, ou est-ce qu'au contraire, Donald Trump, lui, reviendrait un peu en arrière pour gérer les choses différemment, Gaël Lagadec?
Kamala Harris a quand même été assez discrète sur ce qu'elle ferait... concernant l'Ukraine. Donald Trump, lui, a dit à de multiples reprises qu'il réglerait le problème en 24 heures. Et dans son esprit, c'est sans doute d'entériner les gains territoriaux de la Russie. C'est-à-dire, la Russie a gagné, on en reste là. Et d'obliger les Ukrainiens à signer une paix ou un cessez-le-feu, sans quoi l'aide américaine cesserait. Donc voilà, il a une capacité de menace. Il ne faut pas oublier qu'il a une dent contre l'Ukraine parce qu'il a subi une procédure de destitution qui n'a pas été jusqu'à son terme. Parce que dans un entretien téléphonique avec le président ukrainien, il avait semblé conditionner une aide ukrainienne à des preuves que le fils de Biden était engagé dans une corruption en Ukraine. Donc ça laisse sûrement des traces, il est rancunier, Trump. Donc ce ne serait pas pour l'Ukraine du tout une bonne nouvelle qu'il remporte l'élection. Ce ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour l'Europe du point de vue de ses relations avec la Russie, notamment pour l'OTAN, puisqu'il considère que les États-Unis assument un fardeau trop important de la défense au sein de l'OTAN pour les pays européens. Il leur a dit « ceux qui ne payent pas, je ne vous aiderai pas si vous êtes attaqués ». Et puis, se laissant aller, il a dit « je dirais même à la Russie de vous attaquer ». Donc, c'est des propos quand même incroyables en termes de relations internationales. Et là, les Occidentaux auraient aussi de grandes raisons d'être presque effrayés, hein, d'un point de vue de sécurité militaire par rapport à une Russie qui est maintenant en plus voisine de l'OTAN avec les dernières adhésions, qui a peut-être des vues sur les États baltes, etc., sachant que l'OTAN, si un pays est attaqué, doit répondre militairement. Mais que faire si Trump se retire progressivement de l'Alliance? C'est des questions ouvertes, bien sûr. Gardons en tête qu'il est quand même grosso modo isolationniste et qu'on le retrouve aussi d'ailleurs en termes de commerce international avec ses volontés d'augmenter les droits de douane, notamment vis-à-vis de la Chine.
Et le président russe a été très discret, hein, Vladimir Poutine, qui a dit que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, ça lui était égal. Hein.
Oui, il a dit d'abord qu'il préférait que ce soit Kamala Harris, mais on a su depuis que lui et Trump se sont parlé régulièrement, depuis que Trump a quitté le bureau ovale, donc c'est pour troubler le jeu qu'il dit qu'il soutient Kamala Harris.
Il y a d'autres. Alors, par contre, sur la question du Proche-Orient, il n'y aurait pas vraiment de changement, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump. Le soutien à Israël est assez acquis, hein, d'une manière générale, par les Américains.
Oui, depuis très longtemps. Ce qui a pu changer aujourd'hui ou hier, quand Harris, dans le Michigan, a dit je vois que les Palestiniens ont souffert. C'est nouveau parce qu'elle a besoin de dizaines de milliers ou centaines de milliers. Elle jette tous ses arguments dans la bataille, mais ça reste très ambigu parce qu'ils vont toujours continuer à aider Israël, peut-être aider un peu les Palestiniens en parole. Mmh. De toute façon, aucun président américain ne peut rien faire s'il n'est pas d'accord avec Israël. Ce n'est pas moi qui le dis. Je le suis depuis des décennies, depuis Israël existe en quelque sorte. Et le problème est que les congressistes, depuis toujours aux États-Unis, ils sont également contrôlés par l'équivalent de ce qu'on peut appeler le CRIF en France, c'est l'AIPAC. Et à tel point qu'il y a quelques semaines, un membre du Congrès a dit que l'AIPAC contrôle individuellement chaque membre du Congrès. Et donc, il l'appelle « babysitter ». Il voit ce qu'il fait. Pour d'autres problèmes, peut-être qu'il n'intervienne pas beaucoup. Mais c'est un fait. Et quelqu'un s'est amusé à compiler une vidéo des présidents américains depuis les années 60, après Kennedy, parce que Kennedy a eu des ennuis avec les Israéliens. Ils disent tous exactement les mêmes paroles. Il n'est pas question qu'un président américain ne soutienne pas Israël. Le plus voyant, c'était bien sûr Nixon en 73. Et quelqu'un l'a passé sur l'Internet ces temps-ci. Mais c'est exactement les mêmes termes. Donc pour cette question-là, il n'y aura pas beaucoup de changements, à mon avis.
Un point encore qu'il faut peut-être aborder avant la fin de cette émission. On sait que entre les élections présidentielles, il y a ce qu'on appelle les élections de mi-terme, hein, de milieu de mandat, qui désigne les représentants au Congrès, justement, que ce soit la Chambre ou le Sénat. Aujourd'hui, les chambres peuvent jouer un rôle dans ce scrutin, Gaël Lagadec.
Alors oui, enfin, ce serait un cas rare, hein, parce que les 538 grands électeurs. Quand on a deux candidats seulement, ce qui est le cas dans le système bipartisan, il y a un qui a la majorité normalement, mais si on a 269-269, là c'est la Chambre des représentants qui désigne le président, pas sous son format actuel, mais les 50 États ont une délégation qui doit élire le président à la majorité absolue, et le Sénat, lui, va élire le vice-président. C'est quelque chose qui s'est mis en place il y a très longtemps. C'était un amendement qui était pour le troisième président, Jefferson. Je crois qu'il n'arrivait... À l'époque, dans le vote, celui qui était en tête, il n'y avait pas de colistier. Celui qui était en tête était président, le deuxième était vice-président. Et il avait fallu 36 tours pour les départager. Et donc, il y a ce système qui a été mis en place, qui bouche un trou, évidemment, qui a quand même très peu de chances de se produire, même si la répartition des États ne le rend pas impossible. J'avais fait une simulation là-dessus avec la carte des grands électeurs. C'est possible arithmétiquement.
Mmh. Oui, tout est possible, mais la Constitution américaine a été faite dans la hâte, pour ainsi dire. Et c'était quelque chose de nouveau. Donc, à partir du moment où ils sont aperçus qu'on peut avoir un président, mettons, républicain, pour simplifier, en prenant les noms actuels, et un vice-président démocrate, ils ont décidé que les deux appartiendraient au même parti. D'où le 12e amendement. Mais si personne n'a les 270 grands électeurs, il y a cette possibilité que la Chambre des représentants le désigne. Et ça, c'était une question que les étudiants avaient du mal à assimiler avec le collège électoral et les grands électeurs. La Chambre des représentants choisit un président, parmi les trois premiers, trois arrivés premiers, mais chaque État vote avec une voix. Donc, il faut qu'il y ait un quorum, bien sûr, et qu'il y ait 26 voilà. États qui votent.
Cas de figure assez improbable, quand même.
Oui, ouais, mais dans ce cas de figure, les Républicains sont en tête.
Dans ce cas de figure, les Républicains sont en tête. Bon, écoutez, on suivra évidemment tout ça. Les bureaux de vote ouvrent. Enfin, l'essentiel va se passer c'est la nuit prochaine pour nous. Il faudra sans doute quelques temps avant d'avoir des... On se souvient que pour la dernière élection, hein, il y avait eu du temps avant de voir certains États basculer et certains résultats définitifs. Pour rappel, Gaël Lagadec, quels sont les États qu'il faudra surveiller? Quels sont ceux où le scrutin pourrait se jouer? On a cité les États de la côte Est, la Géorgie et d'autres États. C'est là que ça va être le plus important?
Oui, il y a aussi le Nevada, l'Arizona que Trump avait perdu.
En tout.
Oui, avec... Bon, pas tous les mêmes incertitudes, mais les plus pivots, je pense, c'est le Michigan et la Pennsylvanie. Mmh. Et comme la Pennsylvanie a 19 grands électeurs, dans les simulations qu'on peut faire, celui qui gagne la Pennsylvanie a quand même de grandes chances de remporter l'élection derrière.
Oui. Ce qui fait peur aux Républicains ces jours-ci, mais leur peur n'est pas fondée, c'est que dans l'Iowa... on voit un progrès du vote pour Harris. Je ne sais pas si la chose va aller jusqu'au bout, mais ils se demandent s'ils ne vont pas perdre l'État. Mais je n'y crois pas.
Affaire à suivre. Donc, il faudra bien surveiller la Pennsylvanie. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus dans cette émission pour nous parler des enjeux et de cette particularité hein, du vote aux USA. Et pour ceux que ça intéresse, vous serez tous les deux hier en conférence à l'UNC. Ce sera jeudi, je crois, jeudi prochain.
Mercredi,
voilà. Alors là, peut-être une partie des résultats seront connus. Il y aura sans doute des choses à dire. Ce sera à 18h à l'UNC où tous ceux qui le souhaitent pourront vous retrouver. Merci d'avoir été présents dans cette émission.